Bonjour et bienvenue sur le podcast Olépat. Aujourd'hui, je reçois Anne-Catherine avec qui je vais parler de naturopathie animale. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne-Catherine.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va super bien et toi?
Très bien. Je te remercie déjà pour avoir accepté l'invitation.
Merci à toi de m'inviter.
Ce que je propose, c'est que tu te présentes de la manière dont tu le souhaites et également tes animaux si tu en as plusieurs.
D'accord. Alors, je m'appelle Anne-Catherine, j'ai 36 ans, j'habite à Reims actuellement. J'ai travaillé 13 ans dans le milieu de la santé, plus précisément le milieu médico-social, donc avec des personnes âgées. J'étais directrice de maison de retraite. J'ai aussi fait de la qualité auprès de personnes autistes sévères. Et puis, différents publics de la psychiatrie, de la cancérologie, donc l'univers de la santé au sens large. Voilà, donc ça, c'était mon job jusqu'à l'année dernière. Et puis, ma tribu, parce que oui, j'ai pas mal de petits loulous. Alors, j'ai 8 lapins.
Et... Ah ouais.
Voilà, donc 2 mâles et 6 femelles, et j'ai 2 chats qui sont frères, voilà. Et qui, voilà. Donc toute cette troupe s'entend très bien.
D'accord, ça fait beaucoup de monde.
C'est ça, on vit chez nos animaux, mais ça nous convient très bien comme ça. Et j'ai un animal aussi humain, parce que quand je dis « nous », ça paraît bizarre, mais voilà, donc on fonctionne en tribu et c'est super agréable.
D'accord, je pense qu'on va commencer donc dans le vif du sujet, donc on va parler naturopathie comme je l'ai dit en introduction. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est la naturopathie ?
Alors oui, c'est vrai que ça parle pas à beaucoup de gens, et même moi au départ, parce que là je suis en fin d'études au niveau de la naturopathie
humaine. Ah, chouette.
Et animalière aussi, en fait j'ai une double formation. C'est vrai que même moi au début j'avais beaucoup de mal à expliquer ce que c'était en quelques mots. Donc je comprends bien que pour le grand public ça doit vraiment être compliqué. Donc je vais essayer de te résumer ça. Déjà c'est donc une approche naturelle. Donc là on va parler des animaux, hein, donc de l'animal, et une approche surtout globale. Pour te faire la différence, et on est vraiment complémentaire avec les vétérinaires, hein, y a vraiment là-dessus, il n'y a pas de débat du tout. Mais quand tu vas aller chez le vétérinaire, par exemple, pour ton animal, souvent c'est qu'il a un symptôme. Souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu vas aller dire au vétérinaire, bah voilà, mon lapin mange de moins en moins, fait la poule, etc. Alors que en naturopathie, déjà, on fait beaucoup, beaucoup de prévention et on va s'attacher au corps de l'animal, à son esprit et à son environnement de vie. Donc, c'est un petit peu les différences qu'on peut faire. Généralement, on va voir son médecin quand on est humain, quand on est malade ou qu'on a des symptômes. Alors qu'en naturopathie, on va avoir une approche préventive beaucoup plus forte, même si on peut aussi avoir une approche curative et on peut soigner des choses. Mais on ne peut pas tout soigner non plus. Hein. Nous ne sommes pas des médecins. Et il y a certaines pathologies qui nécessitent bien évidemment à aller voir le vétérinaire. Par exemple, pour te donner une idée, une urgence ou une urgence vitale, il faut aller voir le vétérinaire, pas le naturopathe.
D'accord. Ouais. Ouais, ça c'est important de le rappeler parce que évidemment, on parle de médecine naturelle, mais c'est pas pour ça qu'il faut plus du tout aller voir le vétérinaire et que c'est plus important, quoi.
Pas du tout. Par exemple, tu vois, mes 8 lapins, il y en a quand même. Une qui m'a fait 2 arrêts de transit, la naturopathie n'aurait rien changé. On sait que l'arrêt de transit pour un lapin, t'as 24, grand max 48 heures pour réagir avant son décès. Donc là, on est dans une urgence vitale et le vétérinaire, c'est la solution. Voilà, tout simplement.
Oui, totalement.
Voilà. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire... Alors, la naturopathie, c'est quoi ? On part d'un principe global qui est que la santé est régie par la nature et ses lois. Et que le corps est en équilibre. Quand tout se passe bien, le corps est en équilibre, c'est-à-dire quand on s'alimente correctement, qu'on a une activité physique suffisante et que l'animal peut bouger, peut se mouvoir, et également que son état psychologique est bon, donc qu'il est entouré, qu'il se sent pas seul, qu'il n'est pas déprimé, etc. On estime que l'animal est à l'état d'équilibre. Si l'équilibre vient à être modifié, dans ce cas-là, on s'éloigne de l'équilibre et à partir de là, donc on a un déséquilibre et on va commencer à avoir des problèmes de santé qui peuvent apparaître. Alors la santé au sens large, tu l'as compris, hein, physique et mentale.
D'accord.
Et donc le naturopathe travaille énormément sur l'immunité de l'animal. Donc en fait, on va venir stimuler l'immunité, soit pour prévenir une éventuelle pathologie, alors ça peut être des choses qu'il y a dans l'air, hein, un virus ou des choses bénignes, comme des choses plus graves qui peuvent s'installer avec le temps. Par exemple, une mauvaise alimentation sur un animal jeune ne va pas forcément avoir de répercussions. Par contre, quelques années plus tard, tu vas retrouver des pathologies que tu n'aurais pas eues si ton animal avait été alimenté correctement. Tu vois,
par exemple. D'accord, je vois.
Voilà. Donc, on parle en fait de terrain en naturopathie et on travaille principalement sur les différents fluides qui se retrouvent dans le corps, le sang, la lymphe, la bile. Et on va partir du principe que le corps, en fait, il a une capacité d'auto-guérison et qu'il est capable de lui-même, quand il est à l'équilibre, d'évacuer les toxines ou les déchets qui ne sont pas nécessaires à l'alimentation des cellules, des organes, du système dans son ensemble.
D'accord.
Voilà. Donc, ça, c'est la base.
Pardon. Et vas-y, continue.
Oui, donc je vais. Donc en fait, quand tu t'éloignes de l'équilibre, donc de la bonne santé, du bon état de santé, l'animal va commencer à avoir des troubles aigus. Donc là, il peut s'en sortir. Ça veut dire, par exemple, tu vois, avoir des écoulements nasaux, par exemple. Ça veut dire que bah, il y a une bactérie qui va s'évacuer naturellement par les voies naturelles. Hein, donc bah, ça peut être la bouche, le nez, les selles, la transpiration, des choses comme ça. Les oreilles aussi, hein, parce qu'on a tous de la cire dans les oreilles, les animaux aussi. Hein, donc voilà, ça fait partie des zones qui permettent au corps d'évacuer les déchets. Donc on peut avoir un trouble aigu qui va être passager et on peut s'en sortir tout seul. Mais ce trouble aigu va revenir, va être de plus en plus intense. On va arriver donc sur des troubles chroniques. Donc là, on est déjà dans un état plus avancé du déséquilibre. Et l'état le plus avancé possible en négatif hein, du déséquilibre, c'est une maladie dégénérative. Voilà. Donc ça, si on ne fait rien, en fait, si on ne fait rien et qu'on laisse la situation perdurer en état de déséquilibre, on va avoir un trouble aigu, ensuite qui va se transformer en trouble chronique et qui va finir en maladie dégénérative. Voilà.
D'accord. Du coup, je voulais savoir que c'est préférable quand même d'aller en prévention que quand l'animal est malade.
Alors oui, c'est vraiment des consultations que je conseille en préventif, surtout que sur une consultation de naturopathie, je vais faire énormément de pédagogie avec le gardien de l'animal ou la gardienne. Je vais déjà lui apporter quelques conseils. Par exemple, un conseil que j'aime beaucoup donner, parce que bon, j'en fais déjà un petit peu, je suis vraiment à la fin, là je vais être diplômée vraiment dans pas longtemps. Je conseille souvent aux personnes de tenir un petit carnet de bord de leur animal. Alors, par exemple, j'appelle ça le journal de santé, et donc de dire une fois par semaine ce qu'on peut observer chez son animal, et puis noter également les événements peut-être plus ponctuels qui peuvent arriver, comme un déménagement ou une situation qui peut être stressante pour l'animal, tu es parti en vacances avec ton animal, par exemple, ou bien s'il y a une rupture, par exemple, tu vois. Tu vis avec un chien et puis tu te sépares de ton petit copain et tu gardes le chien. Sauf que le chien, il va ressentir qu'il y a une différence dans son milieu de vie et qu'il n'y a plus ton copain, hein, tu vois.
Ouais,
ça, c'est de l'information qu'il va engranger et il va la gérer à sa façon. Et donc, c'est des choses que je demande de noter et qui vont, moi, m'aider à mieux comprendre un petit peu aussi l'histoire de l'animal et ce qui s'est passé, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de pédagogie avec l'être humain. Voilà, c'est pas, on s'occupe pas juste de l'animal. Et ensuite, il y a des consultations où il y a déjà des problématiques et donc des symptômes. Quand il y a des symptômes, il y a des choses qu'on va pouvoir traiter. Donc, en toute honnêteté, je vais pouvoir proposer des choses donc naturelles, à savoir que forcément, ça va aider l'organisme au niveau immunitaire, ça va le stimuler pour qu'il se défende tout seul. Mais ça aura des effets à plus long terme que d'aller chez le vétérinaire et d'avoir une piqûre. Mais l'avantage, c'est qu'on aide le corps à se débrouiller tout seul et surtout, le risque de récidive du dysfonctionnement, il va être vraiment moindre. Par exemple, un problème de peau, tu vois, des plaques rouges qui apparaissent sur la peau d'un chat, d'un chien, peu importe, d'un lapin... si tu vas chez le vétérinaire, il y a de fortes chances que tu aies une injection de cortisone qui te soit proposée, alors que le naturopathe va travailler avec des plantes, va travailler avec d'autres choses. Ça va prendre un petit peu plus de temps pour que la plaque disparaisse, mais c'est l'immunité de ton animal qui va se mettre en action pour faire disparaître cette plaque. Et cette plaque ne reviendra pas dans un mois ou deux, tu vois.
D'accord.
Donc, il y a des... Donc, on peut venir me voir, voilà, pour des... Aussi, souvent, ça va être des troubles chroniques. Ça revient. Je suis déjà allée chez le vétérinaire, mais ça revient. Des troubles digestifs, par exemple, tu vois. Et ça revient. Ouais. Et ça revient encore. Et qu'est-ce que je peux faire ? Et voilà. Donc, ça... Et dans ce cas-là, en naturopathie, on va pouvoir agir sur le plus long terme et éviter les récidives.
Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'en naturopathie, on utilise des instruments ? Est-ce qu'on utilise, je ne sais pas, des plantes, des... pas forcément objets, mais... ou est-ce que c'est vraiment rien du tout ?
D'accord. Alors, la chose la plus matérielle qu'on puisse utiliser, je pense, en termes objets, c'est nos mains. Une consultation de naturopathie animale, contrairement à la naturopathie humaine, ne peut pas s'effectuer à distance. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que je me déplace au domicile des personnes et ça me permet non seulement de voir l'animal, de voir comment il se comporte, de voir son environnement, de poser des questions, bien évidemment, à son gardien ou à sa gardienne, mais de pouvoir faire un tour complet, en fait, de l'environnement de l'animal. Et donc, je vais utiliser le toucher. Déjà pour faire un premier check-up de l'animal, alors pas du tout comme un ostéopathe, hein. Moi je suis pas du tout là pour déplacer, replacer, etc. Mais je vais sentir des zones plutôt de chaleur intense ou d'hypothermie qui vont me donner des indications sur l'état de l'animal. Si je ressens certaines zones plus chaudes, ça peut être un signe d'inflammation. Alors que si je sens des zones qui sont plus froides que ce qu'elles devraient être, là, ça va plutôt être un trouble au niveau du système sanguin, par exemple, tu vois.
D'accord.
Je vais utiliser mes mains pour tout ce qui va être massage. Des techniques de relaxation. L'EFT aussi. Alors, l'EFT, c'est un mot un petit peu spécial. J'en ai parlé sur une vidéo sur Instagram. Donc, je pense que tu me poseras la question après. Est-ce que j'ai un compte Instagram ?
Oui.
Donc, en fait, c'est la libération des émotions négatives. Et donc, par tapotement sur des zones très spécifiques du corps, on va venir travailler et relaxer l'animal en fonction de son trouble à différents endroits, en fait. Voilà. Donc ça peut se rapprocher, si tu veux, de l'acupuncture. Tu vois, t'as des points essentiels, et puis on va venir agir un petit peu là-dessus en fonction du trouble. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise en naturopathie ? Alors, des remèdes homéopathiques, donc c'est-à-dire des plantes à des quantités très, 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 très infime, des herbes aussi, des huiles essentielles, mais ça dépend vraiment de la pathologie. Hein. Là, je te liste un petit peu tout ce qui est possible d'utiliser, des fleurs de Bac, des suppléments nutritionnels aussi, des probiotiques, des choses comme ça. Et puis ensuite, comme je te l'ai dit, des techniques de relaxation. Le Reiki a été adapté pour les animaux aussi, les massages, l'EFT, donc on va dire l'acupuncture entre guillemets pour les animaux. Et puis beaucoup de conseils sur l'alimentation, le bien-être. Voilà. Après, c'est beaucoup de conseils, d'hygiène de vie. Pour l'animal.
D'accord. Donc, si j'avais juste une question, c'est quoi les probiotiques, pardon ?
Alors, les probiotiques, je vais te donner un exemple très concret que j'ai utilisé sur mon chat. en fait, ce sont des éléments qui sont présents normalement dans le microbiote, donc dans les intestins de ton animal, donc des bonnes bactéries, mais qui malheureusement, en état de déséquilibre, ne sont pas présentes et ne permettent plus à l'animal de digérer, par exemple, correctement ses aliments. Les probiotiques sont à l'état de synthèse, dans des petites gélules, mais vont venir restimuler le système digestif de mon chat et donc lui permettre de mieux digérer ses aliments. Donc tu vas faire une cure de 30 jours, par exemple, à raison de un cachet par jour. Et puis le système, en fait, va juste se remettre à l'équilibre parce qu'on va réapporter les bonnes bactéries et les bons les bons organismes à ce microbiote qui est déséquilibré.
D'accord, je vois. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que la naturopathie, c'est un peu un mélange de différentes pratiques ?
Oui, dans l'idée du couteau suisse, c'est que le naturopathe, il a ses limites aussi, hein, et il faut en avoir bien conscience. Et en fait, je peux être amenée à rediriger le petit patient vers d'autres praticiens, comme un ostéopathe, si j'estime que le besoin est là, vers d'autres techniques douces et d'autres médecines douces, ou vers un vétérinaire, comme on en a parlé au début de notre échange. Donc, on est vraiment des couteaux suisses et on peut se spécialiser dans un tas de domaines. Par exemple, on peut devenir maître Reiki pour animaux. Moi, j'ai choisi la spécialisation de l'EFT, donc la libération des émotions négatives, donc la fameuse acupuncture pour les animaux.
D'accord.
Donc ça, c'est la spécialisation que j'ai choisi de faire pour l'instant. Et c'est ce qui est très passionnant aussi dans ce métier-là, c'est qu'en fait, les connaissances sont sans fin, la science évolue. Il y a des pratiques ancestrales. Et il y a des pratiques qui se développent et qui se transfèrent de l'humain à l'animal, comme ce que tu avais dit sur le premier podcast avec Marianne sur l'ostéopathie. En fait, au départ, c'est pour les animaux, enfin c'est pour les humains, pardon.
Oui, c'est ça.
Et puis après, on transfère parce qu'on se rend compte que ça peut bénéficier aux animaux. Et donc, c'est vraiment sans fin. Donc oui, effectivement, il y a vraiment beaucoup de sous-branches qu'on peut utiliser, beaucoup d'outils. Enfin, quand je parle d'outils, c'est voilà, que ce soit des plantes, des techniques, c'est vraiment très très varié. Et vraiment, le principal, c'est d'arriver à cerner assez rapidement où se trouve la problématique principale de l'animal. Et à partir de là, on va vraiment être efficace en termes de propositions.
D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous dire la différence entre la naturopathie animale et humaine ?
Oui. Alors, les principes sont les mêmes. Hein, donc, ce que je t'ai dit au départ sur l'état d'équilibre et de déséquilibre, c'est le même. En fait, en naturopathie, on ne parle pas vraiment de maladie. On estime que le corps arrive juste plus à expulser les toxines ou les cellules malades de lui-même, et donc les organes s'encrassent ou les systèmes s'encrassent, et ça amène des symptômes. Et il suffit qu'un organe soit encrassé pour venir un peu dérailler toute la machine, parce que notre organisme, tout est interdépendant, hein, donc on est complètement lié. Ce qui est différent, je dirais, c'est que la naturopathie animale est plus difficile parce que les animaux ne parlent pas. Donc en naturopathie animale, on va bien évidemment devoir se fier à ce que nous dit le gardien ou la gardienne de l'animal. Mais on va devoir encore plus observer ce que nous on voit même si les humains ne nous disent pas tout non plus. Hein. Quand je fais des consultations avec des êtres humains, il faut savoir lire entre les lignes aussi. Dans le mal-être d'une personne, parfois, elle n'a elle-même pas les mots pour dire ce qui ne va pas, et c'est à toi d'aller chercher un petit peu avec des questions ce qui ne va pas. Mais vraiment, l'animal, lui, pour le coup, il ne dit vraiment rien. Donc, il ne va pas te dire où il a mal, il ne va pas te dire si telle ou telle chose lui fait plus ou moins bon effet. Donc, l'observation et les qualités d'observation vont être encore plus accrues sur la naturopathie animale. Sinon, c'est les mêmes grands principes. Maintenant, la différence aussi, c'est que des plantes qui peuvent être utilisées chez l'être humain vont être toxiques chez l'animal.
D'accord.
Donc, en naturopathie animale, parce que je suis du coup sur, j'ai été sur deux écoles différentes. Hein, donc, la naturopathie humaine, c'est un énorme socle. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, dans le sens où j'ai eu un apprentissage de la naturopathie humaine extrêmement précis. Pour moi, la naturopathie animale est une spécialité.
D'accord.
Là, je ne me serais pas sentie, moi, avec mon niveau d'exigence envers moi-même, en mesure d'être naturopathe animale sans pratiquer la naturopathie humaine.
D'accord.
Voilà, maintenant c'est mon point de vue, tout le monde ne le partagera peut-être pas, mais en tout cas, les connaissances de naturopathie humaine sont quand même très importantes, très ciblées. Et la naturopathie animale, on va transférer des choses. Comme je te dis, la différence, c'est qu'il y a certaines plantes pour les humains, pour certaines pathologies, qui vont être toxiques chez l'animal. Donc, on ne va pas forcément utiliser les mêmes herbes, les mêmes plantes, les mêmes fleurs de Bac pour les mêmes choses.
D'accord, mais en revanche...
On ne va pas utiliser du tout, quoi. Voilà.
D'accord. Mais en revanche, par exemple, un ou une naturopathe humain ne pourra pas, qui se dirige vers la naturopathie humaine, ne pourra pas directement soigner, on va dire ça comme ça, les animaux. Non. Enfin, il faut quand même une formation...
Oui, complètement. Oui, parce que bah, justement, la toxicité, par exemple, de certaines huiles essentielles, plantes, etc., et puis les dilutions ne sont pas du tout les mêmes. Et ce que je ne t'ai pas précisé au départ, c'est que quand on parle de naturopathie animale, et ça, je pense que c'est important de le dire aussi, moi, je ne suis pas formée pour tous les animaux. Pas mal, mais pas tous. Je suis formée pour les chats, les chiens, les chevaux, les lapins et les rongeurs, et les oiseaux. Donc, si tu m'amènes un lézard, je ne sais pas faire, par exemple. Tu vois donc, ce qui va être très différent, et c'est ce qu'on étudie en naturopathie animale aussi, c'est qu'on ne va pas du tout soigner un chien et un chat de la même façon. Ce n'est pas forcément les mêmes... plantes ou les mêmes huiles essentielles, c'est absolument pas les mêmes dosages, même en alimentation, c'est pas du tout la même chose. Et tu t'imagines bien que sur un lapin ou un oiseau, c'est encore moins la même chose, quoi.
Oui.
Les organismes ne fonctionnent pas de la même façon, et donc on a des modules aussi où on apprend comment fonctionne un cheval, comment fonctionne un chat, un chien, et ce qu'on peut faire et pas faire avec l'un et avec l'autre.
Oui, voilà. Totalement.
Donc, et l'inverse n'est pas. Enfin, et puis même si tu n'as fait que des études de naturo animal, tu ne peux pas être un naturopathe humain. Enfin, pour moi, c'est pas suffisant. Voilà.
Oui, totalement. Et est-ce que on peut soigner son animal soi-même avec la naturopathie ou du coup, il faut quand même vraiment une formation?
Alors, je dirais, je mitigerais ma réponse. C'est-à-dire que grâce au naturopathe, tu vas pouvoir faire des choses à la maison grâce à ses conseils. Mais si tu regardes juste vite fait sur internet un ou deux petits conseils et que tu te lances, attention. Attention parce que sur internet, comme pour les humains, hein, on peut lire de tout. Et ça peut être rapidement très dangereux. Par exemple, l'utilisation des huiles essentielles, on le sait, c'est quelque chose même pour les humains qui peut être dangereux.
Oui, ça, c'est vraiment important.
Sur une femme enceinte ou sur un animal gestant, par exemple, c'est non. Les dosages, par exemple, en naturopathie animale, on va diluer l'huile essentielle dans de l'huile de coco ou de l'huile d'olive, tu vois. Ça va être des choses très particulières. Donc, moi, je dirais non à l'auto-médication ou l'auto-naturopathie de manière générale. Par contre, à partir du moment où tu as consulté un naturopathe et qui t'a donné des conseils, qui t'a montré comment masser ton animal, qui t'a montré ou qui t'a fait tout simplement une fiche conseil avec, bah voilà, au vu de la pathologie, au vu du trouble ou en prévention de, tu peux faire ça, ça, ça et ça, à partir de là, oui, évidemment que tu vas pouvoir faire des cures une fois par an à ton animal de telle ou telle chose pour prévenir un trouble digestif, par exemple, ou un eczéma, ou des choses comme ça, tu vois.
D'accord.
Tu es obligé d'aller consulter le naturopathe toutes les 5 minutes. Mais il faut quand même que tu aies cette fameuse fiche pratique et que tu aies pu poser toutes tes questions au naturopathe pour ensuite pouvoir soigner ton animal. Moi,
d'accord.
D'avoir eu les études, je suis en train en ce moment de soigner les troubles digestifs de mon chat.
D'accord.
Mais voilà, c'est quand même des protocoles particuliers, des choses particulières, et je n'encouragerais pas à se débrouiller tout seul. Voilà.
D'accord. Et également, est-ce que le naturopathe a un autre rôle à part soigner les humains et animaux ?
Oui, alors on a un rôle très important et il me tient énormément à cœur d'en parler. C'est que on fait partie aussi de ce qu'on peut appeler la chaîne, parce qu'il y a des associations, il y a des tas d'organismes qui le font, mais de sensibilisation à l'écologie. Ça, c'est très, très important. On revient sur les animaux pour que tu comprennes. Par rapport à il y a 100 ans, les animaux sont malades, ont des maladies graves beaucoup plus jeunes, alors que les maladies observées à l'époque étaient sur des animaux beaucoup plus âgés. On observe, comme chez les humains, une augmentation des maladies chroniques, des systèmes immunitaires affaiblis, des problèmes d'allergie de plus en plus nombreux, des problèmes de peau, des otites, des problèmes de comportement comme l'anxiété, la dépression ou l'agressivité. Et tout ça, en fait, c'est lié à différents facteurs qui sont valables également pour les humains, hein, mais c'est qu'on vit dans un environnement qui est beaucoup plus pollué qu'avant. Pour les animaux, il y a aussi un autre problème dans les élevages, je pense aux chiens ou aux chats par exemple, c'est les croisements et les créations de nouvelles races, ou en tout cas les croisements pour avoir des races toujours plus belles, ça crée plein de problèmes de santé, et c'est des choses qui malheureusement aggravent l'état de santé des humains et des animaux. Il y a aussi parfois la survaccination. Il y a des vaccins qui sont bien évidemment complètement essentiels, mais il y a aussi le lobby des laboratoires où on va parfois survacciner. Là, c'est plutôt, par exemple, tu vois, sur les animaux d'élevage qui sont dédiés à la consommation. La solitude de l'animal aussi, si t'es là que 2 heures par jour chez toi, l'animal est quand même seul toute la journée, le fait qu'il soit confiné si t'as pas de jardin. L'alimentation à bas coût dans les supermarchés, qui sont souvent achetées, hein, par exemple pour les chiens ou les chats, les croquettes, etc. C'est pas la meilleure des choses. Même les croquettes chères, c'est pas parce qu'elles sont chères qu'elles sont bonnes.
Ça, totalement, oui, parce que...
Voilà. Et donc, on a un rôle vraiment de pédagogie, je dirais, d'inciter les propriétaires à comprendre que le mieux-être de leur animal, il est aussi en lien avec le mieux-être de la planète, et que les deux vont ensemble, et qu'on peut vraiment agir sur les deux à la fois.
Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as des astuces à mettre en place afin d'améliorer également peut-être éviter... de trop polluer, etc. Est-ce que tu as des astuces assez simples quand même à mettre en place ?
Si je peux me permettre de rediriger vers une vidéo qu'une amie a faite il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Jade. Elle a justement parlé d'écologie, alors pour les lapins, avoir un lapin
d'accord.
Et un clos en même temps. Et je trouve que cette vidéo YouTube est géniale. Elle est sortie cette semaine, donc sa chaîne c'est Nature Labs. Dans les conseils qu'elle donnait, après je t'en donnerai d'autres, mais elle disait un lapin, ça consomme 80% de son alimentation, c'est du foin. Oui, on le sait, mais pourquoi on prendrait pas l'agriculteur du coin à qui on demanderait des ballots de foin?
D'accord. Et par exemple,
t'évites de polluer en fait via les transports en ayant un circuit court par exemple sur son alimentation.
Et par exemple, déjà, 2 choses, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un circuit court pour les personnes qui ne connaissent pas ?
C'est en fait entre la production de l'aliment et le consommateur, moins il y a de kilomètres, mieux c'est.
D'accord. Et que faire, par exemple, si, je sais pas, les personnes habitent en pleine ville, par exemple, là je pense à Paris instinctivement, mais ça peut être évidemment une autre ville. Comment on fait? Parce que
Oui.
les campagnes, c'est pas non plus à deux rues, c'est pas non plus trop loin. Ça dépend où on est évidemment, mais c'est pas, on peut pas non plus faire 2 heures parce que du coup, c'est pas non plus forcément un circuit court. Enfin, peut-être un peu mieux, mais.
Alors, t'as du bol parce que j'ai un master en géographie. Et du coup, alors j'ai habité à Paris 7 ans, t'as encore moins de bol. Parce que la campagne à Paris, c'est vraiment la porte à côté. On se rend pas
Sérieux?
compte. Ouais, moi j'allais beaucoup sur des marchés artisanaux d'Île-de-France, donc enfin en plein Paris, hein, mais des producteurs d'Île-de-France, de miel qui. Il y avait des ruches sur les toits de Paris, par exemple. Et en fait, quand tu vas à Orly, par exemple, et que tu prends l'avion, tu vois très très vite, quand tu sors de Paris, qu'il n'y a que des champs.
Ah oui, si, t'as raison,
Donc,
parce que
en
moi
fait, c'est. Mais ouais, et en fait, bah, alors le pourcentage exact, j'aurais pu te dire, mais moi, la première phrase qu'on m'a apprise en géographie, donc j'étais en licence à l'époque, c'était un livre qui s'appelle Paris et le désert français. Et vraiment, la France est majoritairement rurale. Donc, moi, j'habite à Reims, tu vois, ce qui est une ville moyenne, mais la campagne, elle est accessible en bus, en fait. Dès que tu passes, je sais pas, moi, la première couronne de Reims, il n'y a que des champs.
D'accord. Parce que c'est vrai que j'habite pas à Paris pile poil,
Mais c'est
mais.
vrai qu'on pense à Paris parce que c'est hyper urbanisé,
Oui,
comme
c'est ça.
Marseille, etc., les grosses, grosses villes. Mais en fait, les campagnes sont vraiment pas loin.
Parce que c'est vrai que j'habite pas non plus à Paris, mais c'est vrai que, ayant en tête, c'est pas forcément très proche. Ou par exemple, là où j'habite, c'est. Disons que j'ai des personnes très proches de mon entourage qui habitent à la campagne, mais tu vois, c'est quand même à peu près 2 heures de route. Donc c'est pour ça que je te disais ça. Est-ce que c'est possible quand même à Paris
Ah mais complètement, complètement. Et moi, je consommais local parce qu'il y a énormément d'agriculteurs, de producteurs, de tout, hein, miel, confiture, fromage, etc., en Île-de-France. On ne le croirait pas, mais il y en a énormément et ça se développe de plus en plus avec les AMAP, etc. Et ils se font connaître.
D'accord.
Et après, par exemple, aussi, ce que vous pouvez éviter de faire, c'est donner un fruit ou un légume à votre animal qui n'est pas de saison. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, même enfin, dans toutes les grandes surfaces ou dans beaucoup de magasins, moi je vois des fruits, je me dis, mais c'est pas du tout la saison. Je vois des framboises, je vois des fraises au mois de février, quoi.
Ouais.
Bon, vraiment, alors, en fonction de. Regardez la provenance aussi, si ça vient du Brésil, bon, ben, ça a quand même fait pas mal de kilomètres, quoi, et vous mettez ça. Alors. C'est pas forcément mauvais en termes de pesticides, etc. Mais par contre, ça vient quand même de l'autre bout du monde. Donc, que ce soit pour nous ou pour nos animaux, il n'y a pas grand intérêt à faire ça. Donc, bah, je dirais ça. Et puis, bah, après, tout simplement, je parlais des croquettes. Bah, moi, je vais arrêter les croquettes pour mes chats. J'ai beau avoir des croquettes qui sont chères et soi-disant de bonne qualité, quand tu regardes la composition, pas tant que ça.
Ça, c'est totalement vrai, ouais.
Voilà.
Par rapport au deuxième podcast que j'ai fait avec Camille, on voit, et par exemple, encore une personne très proche de mon entourage, donc un chien, et le vétérinaire lui a vendu des croquettes parce que le chien n'est pas en surpoids, mais il n'est pas non plus très très fin. Et en fait, quand on regarde la qualité des croquettes, ça a beau être des croquettes dites vétérinaires, clairement la qualité, enfin la qualité de la composition plutôt, c'est un peu problématique quoi.
Ah oui, puis ben. Après, alors, il y a des élevages, là je parle pour les chats de race par exemple ou les chiens de race, etc. Il y a un gros lobby aussi, et je ne citerai pas la marque, mais je pense que tout le monde la reconnaîtra. Il y a une marque très très puissante, que ce soit chez les vétos comme chez les éleveurs. Mais quand tu regardes la composition, c'est de la farine animale, c'est des céréales, enfin, il n'y a rien de bon, quoi. Il n'y a rien de bon là-dedans, et il ne faut pas s'étonner après que l'animal ait des troubles. Donc là, moi, mes chats, j'ai testé les probiotiques qui marchaient bien, sauf que tu vois, par exemple, le trouble revient. Et là, je me suis dit, bon, ben, ça suffit. Alors, ils ont 1 an et demi, hein, ils ne sont pas bien vieux, mais je passe, t'en as sûrement parlé sur le podcast précédent, mais la nourriture barf, c'est-à-dire en fait un maximum de cru. C'est-à-dire que bah, l'animal, dans la nature, le chien, le chat, il chasse, quoi. Donc, pourquoi est-ce que dans la pâtée qui est bourrée de sucre, pourquoi dans les croquettes qui sont sèches, déjà, donc ça lui demande de boire beaucoup plus, et en plus, la composition n'est pas extra. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est entre midi et deux, avant notre podcast, je suis allée leur acheter de la vraie viande, des carcasses, qu'on me donne gratuitement en plus. Les carcasses m'ont été données gratuitement, j'étais ravie. Et les chats se régalent. Et alors, il y a une transition à faire, faut pas le faire comme ça du jour au lendemain.
Oui, totalement.
Voilà. Mais en tout cas, oui, je me suis pas pareil. Grâce à mes études de naturopathie, j'ai vu quels légumes et quels fruits je pouvais donner à mes chats, etc. Et je te le tiens en mille que dans 3-4 semaines, ils iront beaucoup mieux et ils auront plus besoin de cures de probiotiques tous les deux mois, quoi.
D'accord. Voilà. Alors, du coup, on va passer aux questions de fin. je voulais savoir ce que t'apporter les animaux dans ta vie.
Oh là, alors tout, c'est mes bébés, déjà. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui comprendront et d'autres non, mais je les considère comme mes égaux. Je suis quelqu'un de très anxieuse et c'est une vraie thérapie pour moi. Ils me font énormément baisser mon anxiété. Je prends du temps vraiment à les caresser, à m'occuper d'eux, à m'intéresser à eux, et je m'en sens très très proche. Et leur compagnie m'apaise énormément. Je pourrais pas vivre sans eux, en fait, je pense.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais une lecture, un documentaire, une chaîne YouTube, peu importe, à conseiller aux personnes qui nous écoutent ? Ça peut même être un film, hein ?
Ouais, alors il y a un truc un peu vieux maintenant, parce que je l'ai vu il y a longtemps, mais j'ai vu le film qui s'appelle Océan, de Jacques Perrin et Jacques Clouzot, qui m'a beaucoup touchée et qui justement est très poétique, mais rejoint un petit peu cette idée de d'éducation à l'écologie. Donc ça montre un petit peu l'impact de l'activité humaine sur l'état actuel de nos océans. Voilà, donc il y a des moments où, je pleure, hein. Voilà, et il y a des moments de grâce où tu te dis que quand même la nature est magnifique, voilà. Et
d'accord.
Puis, plus récemment, c'est une amie qui me l'a fait découvrir, c'est un livre à la base, mais c'est également une mini-série de 4 épisodes sur Netflix qui est La Colline aux Lapins. Et c'est là que j'ai appris, parce que je ne le savais pas, on sait jamais tout, hein, de toute façon.
Totalement.
Je savais pas que c'était les lapines qui creusaient les terriers dans la nature et qui bossaient quand même le plus. voilà, et j'ai bien aimé ce film-là aussi, et ayant eu lapin, forcément, j'étais attirée forcément par ce film-là, comme on en a parlé, et je l'ai beaucoup apprécié, il est assez facile d'accès. Donc.
Et d'ailleurs, c'est un livre également, non ?
C'est ça. Ouais, j'avais fait sur Instagram, j'avais fait un espèce de, une espèce d'énigme avec plein de mots-clés pour arriver à ce résultat, La Colline aux Lapins. Et donc, l'auteur, je l'ai retenu du coup parce que dans les mots-clés, j'avais mis des trucs un petit peu farfelus. C'est Richard Adams qui a écrit le livre à l'origine.
D'accord. De toute façon, toutes les recommandations seront en description. Et également la chaîne YouTube de ton ami avec la vidéo.
Oui, ouais, elle fait vraiment des vidéos très très bien, et ce que j'aime beaucoup chez Jade, c'est qu'elle déconstruit les préjugés, et elle déconstruit parfois une parole qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou en général dans les associations, les refuges, etc., qui est assez culpabilisante pour les propriétaires d'animaux, je trouve, et ouais. Elle nuance un petit peu le propos, et avec beaucoup d'intelligence, et effectivement, je recommande vraiment sa chaîne pour la qualité de ce qu'elle dit, c'est toujours sourcé. Et ça permet aussi de réfléchir sur ce qu'on entend et d'avoir sa propre opinion, c'est important.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire où rediriger les personnes qui nous écoutent, que ce soit réseaux sociaux, si tu as une chaîne YouTube ?
Oui, alors j'ai un compte Instagram où je parle, enfin j'ai deux comptes Instagram, mais là on est sur la partie animale. Donc pour la partie animale, ça s'appelle Tips by Anse Naturopathie, mais je pense que tu le mettras en description.
Oui, de toute façon, tout sera en description encore une fois.
C'est juste quasiment imprononçable mon truc. Donc là, sur ce compte-là, bah, bien évidemment, je présente mes loulous. J'essaye aussi beaucoup d'interagir avec, avec des propriétaires d'animaux. Alors c'est surtout le lapin sur ce compte-là, mais on est très bon conseiller pour les autres, et finalement quand ton lapin a un problème, t'es en panique totale, et que les autres petits parents, c'est juste génial parce que ça permet de se soutenir, de faire des belles rencontres aussi, d'en apprendre. J'ai rencontré de belles assos aussi comme ça, grâce aux réseaux sociaux, donc vraiment. Et puis je fais des vidéos, donc des réels, où j'essaye de donner des conseils justement pratiques de ce qu'on peut faire à la maison sans danger. Donc j'ai fait deux vidéos sur comment masser son lapin, par exemple, pour le relaxer. Et c'est des choses qu'on peut pratiquer tous les jours si on en a envie sur son lapin sans risque. Voilà.
Génial alors. Du coup, je pense qu'on a terminé. Du coup, encore une fois, je te remercie pour être passée sur le podcast. C'était hyper intéressant.
Merci,
j'ai appris plein de choses.
Merci de ta gentillesse aussi.
Merci. Du coup, j'espère que les auditeurs et auditrices auront passé un bon moment en notre compagnie, on va dire ça comme ça.
Oui.
Et voilà.
Bah, merci beaucoup à toi, et je te souhaite une bonne fin de journée, et à très vite sur Instagram.
Moi aussi. Bisous.